présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Après avoir bu et qu'ils payaient un bon pourboire à cause de ce qu'ils ont fait pour eux, ils se sont retrouvés dehors. Ils vont jusqu'à l'immeuble de qui ? Elle lui dit, ils nous ont pris pour des amoureux. Il lui dit, oui, elle sourit. Le regarde bien. Lui attend. L'impression qu'elle veut monter chez lui. Elle met la main sur la poignée de la porte de l'allée. Il a chaud. Puis, elle l'allonge et lui dit, c'est sûrement le champagne. Lui donne un baiser sur le front. Merci pour tout. Elle s'éloigne demande pourquoi elle n'a pas voulu. Elle se dit, il ne le faut pas, c'est peut-être l'élu. Et lui, la voix s'éloignait. Et la vie reprend. Cliff, maintenant qu'il a un chez lui, doit l'entretenir, c'est-à-dire faire le ménage, et il fait même sa cuisine, etc. Il va la voir une fois par semaine chez elle. Elle le surveille discrètement. Au travail, ça se passe toujours bien. Après-midi, Cliff voit arriver dans le couloir Serge et un homme. Cliff lui fait signe de la main. Serge ne dit rien. L'homme dit à Serge, « Attends-moi, ici, j'en ai pas pour un longtemps. » Serge dit à Cliff, qui est resté dans le couloir. Surtout ne dis rien, tu ne me connais pas. Et ne dis pas que je vais chez Judith. Mon père serait furieux. Il y va aussi chez elle. Une porte s'ouvre et le père revient. Serge dit, attention. Cliff se retire et voit le père et le fils marcher l'un côté de l'autre. Cliff se dit que Judith a une vie bien remplie, le père et le fils. Et dire qu'elle a failli avec lui, c'est mieux qu'ils restent bons amis. Un jour, il entend le lapin parler à une fille. Elle dit, « Elle les a toutes eues, cette Judith !» Il se dit, « Sauf moi !» Après-midi, qu'il ne travaille pas, il est allé faire des courses au Galerie Lafayette. En sortant avec ses paquets, il tombe nez à nez avec Alexis. Alexis lui dit, Cliff, Alexis. Et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu deviens ? On se demandait où tu étais passé. Tu es parti comme ça. Nous avons cru qu'il t'est arrivé quelque chose. Cliff lui dit, je suis très heureux de te revoir. Oui, il m'est arrivé des tas de choses. On ne peut pas parler ici, il y a trop de monde. Viens, allons chez moi. Et tu es surpris. Chez toi? Oui, enfin. Oui, viens, c'est à deux pas. Alti suit Cliff qui le mène chez lui. Il est surpris par l'immeuble. Il est surpris par l'allée. Lui dit, tu as gagné le gros lot ? Cliff lui dit, presque, une fille charmante s'est prise amitié pour moi. Alti lui dit, je vois. Ils prennent l'ascenseur. Cliff lui dit, tu sais, c'est pas du tout ce que tu crois. On n'est qu'amis et rien de plus. Sort de l'ascenseur. Et Haïti va ouvrir seul son appartement. Cliff va ouvrir son appartement. Allait-il le suivre? Ah. Haïti surpris n'ouvre pas ses yeux. C'est chez toi? Oui. Mon Dieu, tu me montres? Oui, bien sûr. Et qui, tout heureux, lui montre l'appartement. Hein, le séjour. La chambre. La cuisine. Haïti lui demande, tu vis avec la fille ici? Cliff lui dit, non, pas du tout, elle a le sien. Viens, allons au salon. Je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Ah. Assieds-toi, là, dans ce fauteuil. Tu veux boire quelque chose? Haïti lui dit, un jus de fruits. Tomate? Ananas, pomme, et il lui dit tomate. Et Cliff va le lui chercher à la cuisine. Est très content. Il aime bien Alexis et sa famille. Il va tout lui expliquer. Il est revenu avec une bouteille et deux verres, du sel et du poivre. Il met tout sur la table basse et fait le service. Sel, poivre, sel. Moi aussi. Merci. Après avoir fait le service, il bu et lui raconte tout ce qui lui est arrivé depuis sa disparition. Il nommait bien entendu Serge. Après avoir fini, il lui dit, voilà, j'ai eu de la chance. Et il dit, deux belles femmes pour venir à ton aide. tu en as de la chance. Et maintenant, tu as un travail et tout ça. Il faut qu'elle t'ait vraiment dans la peau pour qu'elle fasse tout ça pour toi. Cliff est tout rouge et lui dit, il ne faut pas croire des choses. Elle fait ça parce qu'elle aime m'aider, elle aime aider les gens. Et ici, il lui dit, c'est en quelque sorte un abbé Pierre de luxe. Cliff sourit et lui dit, oui, et toi, ta famille? Et il lui dit, ça va, mon père est toujours au chômage et ma mère fait les ménages. Mais on s'en sort et dans la bonne humeur. C'est mon père qui va être surpris d'apprendre tout ça. Il te croyait mort. Il va être heureux, Mathieu aussi. Cliff lui dit, je pourrais venir leur dire bon petit bonjour. Alexis lui dit, oui, ce serait gentil, viens samedi après-midi. Cliff lui dit, d'accord. Et il reste un moment à discuter, puis Alexis est obligé, c'est de s'en aller. Cliff l'a accompagné jusqu'au car. Cliff est très heureux de l'avoir revu. Le samedi, il achète des gâteaux, un foulard pour la mère, des hameçons pour le père, un livre scientifique pour Alexis et pour Mathieu, un petit microscope. Ça ne lui a pas coûté trop cher parce qu'il a acheté ça à la supérette de l'entreprise. Alexis lui a donné l'adresse pour aller chez lui. Il a pris le car. Il a reconnu la rue avec ses commerçants, son square. Il se sent tout heureux de revoir ça. Les enfants qui courent dans la rue, les gens qui se promènent, les vieux. Et Cliff entre dans l'allée des prudents. Elle n'a pas changé. Et ça l'émeut de la revoir. Ça lui fait plus plaisir presque que d'entrer dans son allée. La porte est ouverte. C'est Alexis, souriant. Il lui dit, entre. Il entre. Alexis crie, il est là. Apparaît les parents. Toujours les mêmes. Bonjour. Le père et la mère accourent à lui et l'embrassent. Le père dit, j'ai eu si peur. La mère lui dit, je croyais te reconnaître à chaque coin de rue. Je lui dis, moi aussi, je suis heureux de vous revoir. Ils voient qu'il est chargé de paquets. Cliff leur dit, c'est pour vous. Le père dit, mais tu es fou? Tu es devenu riche? Cliff dit, ce n'est rien. Et il fait la distribution. Tenez. Elle dit, je vais chercher Mathieu. Et il sort en courant. La mère, en voyant le foulard bleu en soie, mais tu es fou. Le père, mais alors là, tu ne pourras pas refuser de venir à la pêche avec moi. Cliff dit en riant, oui, j'irai bien.
Entre Alexis et Mathieu.
Mathieu est gêné. Alexis dit, viens. Cliff lui dit, bonjour Mathieu. Je suis heureux de te voir. Mathieu lui dit, moi aussi. Et ils s'embrassent. Tiens, c'est pour toi. Il lui offre son cadeau. Merci. Et ils ont passé la journée gaiement. Cliff leur a raconté son aventure. Ça les a fait rire. Surtout la belle rousse. Ils se sont mis à parler comme si le temps ne les avait pas séparés. Cliff a retrouvé la chambre d'Alexis. Il a dîné avec eux. Un repas simple, mais bon. Avec des riens, Madame Prudent arrive à faire de bons repas. Ce n'est pas facile pour une famille où le père est au chômage et ne touche rien, la mère faisant des ménages chez une particulière qui la paye peu et un fils qui poursuit ses études même si, pour ça, la famille est aidée. Après le repas, Cliff a été obligé de les quitter. Le père l'invite, s'il le désire, à la pêche. Mathieu y sera. Cliff accepte. À part Judith, il ne voit personne. Il ne voit personne lorsqu'il est en repos. Le lendemain, ils sont allés à la pêche. La journée a été très agréable. Ils n'ont pas beaucoup rapporté de poissons, mais ça n'a pas d'importance. Mathieu a pris des échantillons d'eau qu'il a mis dans un bocal de confiture genre belle-maman qu'il a trouvé dans une poubelle bien lavée et rincée. Il va étudier l'eau avec le microscope que Cliff lui a offert. Lorsque Cliff les a quittés, ils se sont donné rendez-vous le samedi suivant pour aller au jardin des plantes. Cliff est satisfait. Il a un travail, un bel appartement, une belle femme qui l'aide et a de l'amitié pour lui et des amis gentils. La guerre continue à faire des ravages. En France, on ne s'en rend pas trop compte, parce que le pays est déjà dévasté à cause de la misère, des émeutes et des enlèvements. Et puis, il y a la police qui surveille la population, une police très forte, déjà depuis longtemps, avec les hommes en noir. Ce qui fait que ça ne change pas grand-chose au climat de la France. On attaque toujours les pauvres la nuit. Il y a toujours des enlèvements. Beaulieu, ces usines fabriquent des armes à la chaîne et en plus pour la France et pour les Américains. Il faut aussi des armes chimiques, genre sidotiques pour l'Afrique. Sous forme de dons de sang pour les hôpitaux. Des piqûres, antivirus, etc. Il crée aussi des produits pour apporter la lèpre. Beaulieu a toutes ses commandes parce que Franblanc ne peut pas fabriquer tout ce qu'on lui demande. Alors, il en fait fabriquer chute intense à Beaulieu. Franblanc, en matière d'armes biologiques, il fabrique un produit qui stérilise les hommes et que l'on met dans l'eau. C'est invisible, inodore et ne peut être décelé dans une usine d'épuration. Et comme c'est Franblanc qui a le monopole de l'eau, il peut mettre ce produit sans ennui. La stérilité des hommes est une chose que l'on pratique depuis Pontoise. C'est lui qui en a eu l'idée. Fabrique et cultive des insectes qui apportent des maladies comme la maladie du sommeil. Les rats pour transmettre avec les puces la peste, etc. Ces insectes ou petites bêtes, on leur met un enzyme pour fabriquer des maladies. Et les petites bêtes peuvent être mutées. Pour ce qui est des armes, on en fabrique de plus en plus. Elles sont légères, précise, avec des balles, on met une maladie par l'intermédiaire d'une molécule autre qui agit très vite. La maladie donne la mort. Et avant, elle paralyse les nerfs et le cerveau. Ce qui fait qu'une petite balle de rien du tout qui est entré dans le cœur, n'importe où, même dans un endroit pas dangereux, a cause de la maladie qu'elle transporte, qu'elle paralyse. Et, c'est-à-dire que l'homme meurt par maladie, presque de suite. D'abord, une fois dans le corps, fond, et en fondant, sort le poison. La personne est paralysée, et peut recevoir plusieurs sortes de virus, tels que le sida ou autre. Même la peste, rapidement. Framblanc, Riquin ont trouvé une plante qui peut donner le cancer d'une façon fulgurante. Donc même si le tueur n'est pas bon et vise dans n'importe quelle partie du corps, la personne est perdue. Soit par une maladie incurable, soit qu'elle meurt d'un coup de suite. Intermédiaire des associations humanitaires, celle de Pontoise, on envoie en Afrique des produits qui ne servent à rien ou à apporter des maladies. Framblanc trouve très utile ces associations humanitaires pour son groupe. En plus de ses livraisons d'armement et d'armes chimiques, ça lui permet de diffuser ces choses chez l'ennemi. L'on met dans l'alimentation humanitaire des produits à base de plomb, un produit cancérigène qui stérilise et apporte des maladies contagieuses. Plus l'humanitaire aide, plus on a besoin de lui. Parce que son aide rend malade les populations. Ce qui fait que l'humanitaire crée ses clients lui-même. Ça marche tellement bien que l'on décrète, c'est de mettre en bourse les associations humanitaires. Il y a aussi des fabrications d'armes lourdes, genre bateaux, avions, tanks, 4x4, camions, etc. Sur le champ de bataille, l'armée franco-américaine la bataille est dure pour eux, très dure, parce que la population est très nombreuse et n'a pas peur de se sacrifier. Et puis, elle aime la guerre. Ils n'ont plus rien à perdre, parce qu'ils n'ont rien. Comme le pays est en ruine et qu'il y a peu de villes, beaucoup de savanes, bombardées, ça ne sert à rien. Et puis, il n'y a que des huttes. L'armée française est une armée qui marche avec beaucoup de nourriture, d'eau. Ils ont de tout ce qu'ils ont besoin. Mais là-bas, l'eau douce est rare. L'eau est polluée. Donc, ils avancent avec difficulté et ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir plus loin, ce qui permet aux autres de préparer des embuscades. Les Noirs se battent à la guérilla, avec presque rien, des fusils, poignards, haches, pioches. Et ils sont presque nus. Les autres, leur guerre se fait avec des batteries. Ils ont des hôpitaux de campagne, cantines, magasins de produits alimentaires, magasins d'armes, les camions, les journalistes. CNN a demandé à Pierre-Max Roussillon d'aller là-bas en envoyé spécial et il leur a proposé un prix d'or. Et Pierre Max a refusé parce qu'il a sa chorale et son émission. Donc, les Occidentaux, c'est une vraie ville qu'ils ont avec eux, qu'ils transportent. Bien entendu,
repliez-vous !
Avec les tentes personnelles pour soldats, cantines, costumes, etc., etc. Ce qui fait que toutes ces choses lourdes à transporter, il faut les protéger des ennemis et des intempéries. Ils sont moins libres pour se battre que les autres qui vont se battre avec rien. Avec rien et mangent ce qu'ils trouvent. Ils se cachent sous terre aussi. Donc, les Noirs vont plus vite et s'éparpillent plus facilement. Tandis que les armées occidentales, pour avancer, il faut prévoir leur départ, les étapes, les autres non, donc ils s'enlisent, malgré les armes chimiques et autres. Lorsqu'ils sont attaqués par une horde de Noirs qui foncent sur eux de toutes parts, qui sont des milliers et des milliers, à moitié nus, avec un fusil ou une hache, ils sont pris, paralysés, le temps qu'ils protègent leurs choses, mettent en marche leurs armes. Les autres sont déjà sur eux et les tuent à coups de hache et de fusil. Ils font sur eux comme un nuage de sauterelles. Il y a beaucoup de morts. Bien sûr, du côté des Noirs aussi, car après la surprise, les soldats tuent. Et tue en se servant des armes chimiques, grâce aux balles.
Repliez-vous !
Les Noirs, comme les Occidentaux, après un temps de bataille furieuse, s'en vont comme ils sont venus, laissant un champ de mort. Il y a plus de morts toucher les Occidentaux, toucher les Noirs. Et puis, parce qu'on ne peut pas se couvrir. Nuage de sauterelles. Et puis, il faut enterrer les soldats morts. Ça aussi, ça fait perdre du temps. Eux, les Noirs, les laissent et se déplacent. Donc, cette guerre est très dure, longue. Les soldats souffrent du climat, de la chaleur, des tempêtes de sable, etc. Les jours passent et les soldats s'enlisent. Mais, en secret, Franc Blanc a des relations avec les chefs des gouvernements africains et traite des accords avec eux pour que le pays soit reconstruit par Franc Blanc et modernisé aussi par Franc Blanc. En échange, on offre aux chefs d'État une bonne somme dans un compte en Suisse et des immeubles en France de bon rapport. Les Africains acceptent, signent et décident d'aider les Occidentaux pour qu'ils gagnent la guerre. Bien entendu, une fois que la guerre sera finie, les chefs d'État seront destitués, la Franc Blanc leur donnera ce qu'elle voudra et le pays, le continent pour ainsi dire, sera sans discussion à eux. La Franc Blanc en fera ce qu'elle voudra, de toute l'Afrique, du Nord et du Sud. Fera un immense parc d'attractions. Fera qui mettra des usines de production alimentaire manufacturée. Sans compter qu'elle créera des mines pour les richesses de la terre. Le tout en exclusivité pour la Franc Blanc. Les Africains seront des employés Franc Blanc. Ils auront le confort Franc Blanc. Tout ce qu'ils achèteront et auront besoin d'une façon vitale proviendra de chez Franc Blanc. Tout des usines de Franc Blanc fabriquées dans les usines de Franc Blanc. Ils auront une carte à puce pour leur achat qui sera universelle pour l'identité, sécurité sociale, etc. Et sera connectée au continent chez Franc Blanc. Ils auront aussi les télé, radio, cinéma, etc. Franc Blanc. Les Américains sont d'accord et ne demandent que 20% de bénéfices. Ça leur suffit parce qu'ils n'auront rien à faire. Et puis l'Amérique ne peut s'imposer, elle est en état de faiblesse par rapport à Franc Blanc. Donc cette guerre qui devrait être gagnée par les Africains parce qu'ils sont les plus forts sur le terrain va être perdue par eux. Grâce à un accord secret de leur gouvernement qui préfère vendre leur pays et leur peuple s'enrichir. C'est mieux pour eux que si le pays gagnait la guerre. Parce que s'ils gagnent la guerre, le pays retournera comme il a toujours été sous-développé et ne rapportera rien. Et comme un pays sous-développé après une guerre est encore plus sous-développé. Parce qu'il faut penser le pays, le reconstruire. tandis qu'un pays vendu, c'est le vainqueur qui a la charge de le faire. S'il veut que le pays qu'il a pris puisse lui rapporter, alors il faut qu'il reconstruise le pays. Voilà à quoi pensent les chefs d'État d'Afrique pendant que leurs hommes se battent comme des fous et se font tuer. Malheureusement, si Tremblant a traité un accord secret avec les gouvernements de ces pays, il n'a pas traité avec les chefs religieux de ces pays, qui ont un pouvoir très fort sur la population. Et ces chefs religieux ont décrété la guerre sainte. Comme ces chefs religieux, aux yeux de la population, respectent plus l'identité des peuples que les gouvernements qui, pour les peuples, singent les Occidentaux, alors les gens, les peuples, sont fanatisés par les chefs religieux parce qu'ils les sentent plus près d'eux de ce qu'ils sont, de leur coutume, de leur culture. Ce qui fait que la guerre continue et fait rage, même si les gouvernements mettent du lest dans les provisions d'armes et autres. Les religieux leur apportent leurs aides en argent, réconfort, lieu pour se cacher, des armes à feu ou des armes blanches, etc. La guerre gouvernementale se relâche et la guerre grandit grâce aux religieux. Et tout ceci de fanatiser les foules pour la religion que pour des idées politiques. C'est plus simple à comprendre, etc. Un jour, Cliff reçoit une invitation pour aller à une soirée chez les Tremblants. Soirée amicale entre collègues pour faire mieux de connaissances et mieux connaître sa direction. Cliff n'a pas du tout envie d'y aller. Lorsqu'il voit Judith chez elle, comme toutes les semaines, elle l'invite pour passer la soirée chez elle. Dîner, discussion tendre pour la soirée. En dînant, il lui dit « J'ai reçu une invitation pour une soirée chez Tremblant. J'ai pas du tout envie d'y aller. » Elle lui dit « Il te faut absolument que tu y ailles. Ce serait mal vu. C'est un honneur. Et ça démontre que tu t'intéresses au groupe, que tu cherches à avoir des rapports et que tu parles à tous les gens du groupe. » Il lui dit, mais je parle à tout le monde. Il lui dit, oui, mais tu ne cherches pas à parler aux gens que tu ne vois pas au cours de ton travail, aux gens des autres services. nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Caire. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.